la musique.
Caravan à la maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pain,
vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse. Alors aujourd'hui, nous recevons Basile Naudet et Augustin Bette pour le groupe Where is Mr. R. Alors, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Salut.
Et alors, nous excuserons Luca Ventimiglia, qui est le troisième du groupe, qui n'est pas là aujourd'hui. On vient de commencer par un extrait de votre dernier album, qui s'intitule 18 Luglio.
Oui, parce qu'il a été enregistré un 18 juillet, il y a un an et demi, deux ans maintenant.
D'accord. Alors, est-ce que... Alors, je renvoie à l'émission du 17 novembre 2017 pour les traditionnelles questions d'apprentissage, de la musique, comment s'est formé le groupe, tout ça. Donc nous avons un site, lesoreillesLibres.free.fr sur lequel on peut retrouver toutes les émissions et j'encourage les auditeurs à réécouter. Comme ça, on pourra comparer ce que vous dites maintenant, ce que vous disiez il y a trois ans et demi. Mais bon, je voudrais savoir avant tout, on vous invite quand même pour ce disque qui est sorti en février, je crois.
Oui, c'est ça.
Où et comment a-t-il été enregistré ?
Alors, il a été enregistré au Confort Moderne à Poitiers. Donc c'est l'association Jazz à Poitiers, avec Mathieu Perrineau, qui nous avait invités, qui est décédé maintenant, d'ailleurs. On peut lui rendre un hommage. Et on avait enregistré ça en juillet 2019.
D'accord, ouais. Mais alors, c'était dans le cadre d'une résidence où vous jouiez ou...
Oui, c'est ça, ils nous avaient invités trois jours pour enregistrer.
Alors, la matière qu'on entend, est-ce que c'est enregistré en public ou non, ou en studio ?
Non, c'est enregistré en studio. Ouais. Alors justement, en fait, ce qu'on a fait pendant trois jours, c'est qu'on a essayé d'enregistrer... Enfin, on a eu l'intention d'enregistrer... à chaque fois la même improvisation.
Ah, faut que vous expliquiez ça quand même.
Faut qu'on explique un peu.
Ouais.
Donc en fait, il y a eu à chaque fois la même improvisation qui s'est trouvée durer un quart d'heure, mais non pas tellement par un choix intentionnel au départ, mais simplement parce qu'au bout d'un quart d'heure, en gros, on n'en pouvait plus, quoi. Enfin, on avait atteint notre limite physique. Mmh. Finalement, à chaque fois, on partait d'un même point de départ, qui est un peu anecdotique. Ça aurait pu être un autre, mais là, on a décidé de partir d'une seule phrase de saxophone, de vibraphone et de batterie.
Ouais.
Une phrase chacun. Et de la répéter. Mais en fait, la répétition, c'était, on ne s'est pas dit qu'on allait la répéter. C'est plutôt que à chaque nouvelle itération de cette phrase, il y avait les mêmes questions qui se posaient à chaque fois. C'est-à-dire, enfin ça je pourrais peut-être y revenir après, mais surtout ce que nous on a essayé de faire, c'est de réduire dès le départ l'espace dans lequel on interagissait. C'est comme si on interagissait dans un espace d'une mesure et d'une phrase.
Ouais.
Il y a un morceau de Monk qui s'appelle Friday the 13th, où c'est une grille de deux mesures. Ouais. Voilà, c'est comme si on avait fait une espèce de grille d'une mesure, avec un accord, une phrase.
Ouais.
Et qui se répétait indéfiniment.
Ouais.
Et du coup, le fait de réduire à la fois l'espace et le matériel, ça ouvre de réduire les possibilités, ça ouvre d'autres possibilités à d'autres endroits, notamment dans l'interaction qu'on avait entre nous. Mmh. C'est-à-dire que du coup, le développement, c'est pas un développement qui est prévu à l'avance, c'est plutôt la réaction entre nous à chaque fois. Qui produit le morceau.
D'accord,
jusqu'au bout.
Oui.
C'est à chaque fois, c'est moi qui réagis à Basile, puis le vibraphone qui réagit au sax, puis qui réagit à la batterie, puis qui réagit. Et au bout d'un moment, ça crée un morceau, et qui pourrait durer en fait indéfiniment. Sauf que ça ne dure pas indéfiniment, parce qu'au bout d'un moment, on fatigue.
Alors, oui, mais
et qu'on arrête.
c'est ça que j'arrive pas à saisir, en fait. C'est que j'ai vu sur... un petit texte expliquant vos intentions. Et j'arrivais pas à comprendre comment vous étiez fatigué au bout de 15 minutes. Même. Vous êtes des jeunes gens robustes.
On n'est pas très sportifs déjà.
Oui, non, mais d'accord. Mais qu'est-ce qui vous fatigue? Vous avez quand même l'habitude de jouer. Qu'est-ce qui est fatigant au bout de... C'est une fatigue nerveuse. Est-ce que vous pouvez expliciter ça, cette recherche sur la fatigue?
Bah, je pense qu'il y a la fatigue des oreilles déjà.
Oui.
C'est un moment où on en a marre. Et c'est très statique comme musique. Je pense qu'on pourrait faire, on l'a déjà fait, de jouer 40 minutes,
ouais.
Mais pas en répétant la même chose incessamment.
Oui, d'accord.
Et alors personnellement, au saxophone, je fais des choses qui sont assez demandantes.
Ah oui, d'accord.
Et moi, je suis fumeur, je suis asthmatique, du coup...
Après, disons que le temps, ça tout dépend de le niveau d'intensité auquel on est. Là, comme c'était un niveau d'intensité qu'on visait un peu maximal, bah forcément, en fait,
oui, bien sûr.
Assez rapidement... Ouais. Assez rapidement, on a fatigué, quoi.
Et la durée de 15 minutes, comment vous déterminez y a un signe, quand vous savez que c'est vous.
En fait, justement, c'est ce que je te disais, c'est que les 15 minutes, on ne s'est pas dit on va faire 15 minutes.
Ah, d'accord.
C'est plutôt que de fait, les deux fois, au bout d'à peu près 15 minutes, puisqu'on faisait, on a fait deux fois en gros la même chose, enfin deux déclinaisons d'une même idée, on va dire.
Ouais.
Et ben, au bout d'à peu près le même temps, à 30 secondes près, ben, on s'est arrêté parce qu'on ne pouvait plus continuer.
Ouais. Ah ouais, clair. Et alors, est-ce que quand les concerts vont reprendre, alors on a appris que c'était, je ne sais plus, j'ai pas écouté, mais c'était bientôt.
T'as pas écouté.
J'avoue que... En mai, on m'a dit que c'était en mi-mai. Moi,
j'ai appris que les terrasses allaient ouvrir le 19 mai, ça j'ai retenu.
Ah oui, ça c'est les cinémas que j'ai... Moi, je suis un peu plus sensible au cinéma.
Ah ouais.
Peu importe. Mais est-ce que dans vos prochains concerts, est-ce que premièrement, ils auront un lien avec ce que vous venez de nous expliquer? Et est-ce qu'on aura une déclinaison en public de ce que tu nous expliques, Augustin?
Alors, pas vraiment, parce que du coup, cet album, on l'a enregistré, ça va faire 2 ans, là.
Ah oui.
Et c'était une manière pour nous d'en finir avec la répétition. Qui est le mode d'interaction avec lequel on a un peu commencé avec ce groupe.
Mmh.
Et c'était une manière de le graver pour dire maintenant on fait plus ça. Mmh. Du coup, les prochains concerts, je pense, ça va être autre chose.
Ouais, d'accord.
Ouais. Ouais, ou pas. Enfin,
ou pas.
Ça, je pense, souvent on dessine un peu pas très longtemps avant de ce qu'on va faire.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est bien de les nommer parfois, les gens qui ont travaillé avec vous sur le disque, les ingé sons et...
Oui, c'est Raphaël Guiton de Jazz à Poitiers qui l'a enregistré, qui est resté avec nous 3 jours. En fait, on a fait 15 ou 17 prises de ça, on a gardé les 2 dernières.
Ouais.
C'est surtout grâce à toute l'équipe de Jazz à Poitiers, au Confort Moderne, et notamment Mathieu Perrineau qui nous a quittés l'année dernière, comme a dit Augustin, et c'est lui qui nous avait invités à venir enregistrer à Jazz à Poitiers.
Et à qui le disque est dédié, je crois.
Oui.
Alors, on va écouter... Vous n'êtes pas venu avec simplement des morceaux de Where is Mr. R, mais également avec d'autres choses. Et je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi vous souhaitez écouter Doudou Ndiané Rose.
Ouais, peut-être qu'on en parle après.
Ah, d'accord. Bon. OK. Alors, on écoute le titre. Je voulais dire le titre, par contre.
Cheikh Anta Diop. Je suppose que c'est un hommage à l'historien sénégalais Cheikh Anta Diop.
D'accord. Ok, on y va. Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec aujourd'hui deux membres du trio Where is Mr. R. Alors, parlez-nous de ce morceau Check Antadiop.
Ouais. C'est un morceau de l'album Djabouté de Doudoun Tiaï Rose, qui est un peu l'album qu'il a fait connaître auprès du grand public mondialement, qu'il a enregistré sur l'île de Gorée en 92, sur les conseils d'Éric Serra. Alors ça, c'est rigolo. C'est Éric Serra qui l'a enregistré. Ouais. Et Doudoun Tiaï Rose, c'est la personne qui a fait exploser un peu les musiques traditionnelles sénégalaises dans le monde entier. Ouais. Un gros lien avec Paris aussi. Et ça, c'est un morceau hommage à l'historien et anthropologue africain sénégalais Cheikh Anta Diop.
Oh ouais. Et alors, pourquoi tu souhaitais diffuser ce morceau? Qu'est-ce qui te touche là-dedans?
Alors, beaucoup de gens de 2035, on a un petit lien avec le sabar parce qu'on a tous un peu étudié avec des gens qui ont pratiqué le sabar. Ouais. Moi, à Montreuil, avec Luca Morgan, on étudiait avec Stéphane Payen, qui est parti... Au Sénégal étudier le sabar et qui avait un atelier de sabar au conservatoire de Montreuil.
Peux-tu préciser ce qu'est le sabar?
Le sabar, c'est une danse, un style de musique et un instrument.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Les trois se recoupent un peu, mais c'est un style de musique traditionnelle sénégalaise.
Très bien, très bien.
Et ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on appelle ça musique traditionnelle, mais c'est une musique hyper vivante, oui, qui continue en fait à être énormément écoutée à la radio, où il y a plein d'hybridations avec plein de styles différents, et c'est très très loin d'être mort. Après, moi ce que j'aime bien dans le sabar aussi, j'en ai un peu fait aussi avec Yvan Normand, qui était le prof de Stéphane Payen aussi, enfin qui lui a enseigné. C'est comment de l'extérieur, avec notre conscience rythmique d'occidental, on peut dire, les appuis, ça nous paraît de l'extérieur un magma rythmique, voilà, avec des appuis hyper différents de la musique qu'on a l'habitude d'écouter. Et en même temps, c'est très écrit, les parties sont hyper précises, hyper prévues.
Ah, d'accord, ouais.
Et il y a une superposition comme ça qui fait que la musique tient toujours, et avec aussi l'idée un peu de ce dont on parlait tout à l'heure, d'endurance. C'est-à-dire que quand on fait des sessions, ça peut durer 2, 3, 4 heures. C'est un instrument qui est en fait physique. Ouais. Il faut tenir à la fois le tempo et l'intensité. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est proche pour moi des problématiques qu'on a avec Where is Mr.
Ouais, c'est ce que... On revient à cette histoire de fatigue. Et tout ça. Et alors, on n'a pas parlé. J'ai votre disque dans les mains. La pochette est merveilleuse. Et... vous n'avez pas parlé de l'aspect visuel de votre
disque. On a fait un oubli majeur.
Mais non.
Pochette a été réalisée par une typographe qui s'appelle Hélène Marion.
Ouais.
Et voilà, moi j'ai coutume de dire que la pochette est mieux que la musique, mais je sais pas si Blasie est d'accord.
Ça dépend des jours, il y a des jours je suis d'accord.
Bon. Et alors, revenons un petit peu au groupe. Comment le groupe a-t-il, peut-être même vous-même dans d'autres occurrences, comment avez-vous fonctionné durant ces différents confinements? Avez-vous continué à répéter intensivement, ou alors bon?
On n'a pas répété de manière intensive. On a fait deux concerts, dont un à la radio, une radio qu'on a montée avec 2035 et sur Natural Orchestra en octobre dernier. Il y a eu un concert de Where is Mr. R à la radio.
Ouais.
On a un peu répété quand même.
Ouais.
Et on a notamment enregistré les morceaux qu'on va faire écouter après.
Ah,
c'était pas pour faire une transition.
D'accord. Ouais. Oui, non, parce que j'ai d'autres questions avant. Notamment, beaucoup de disques. Alors moi, j'ai des invités qui me disent mon disque n'est pas encore sorti, et donc les sorties de disques sont retardées. Donc j'imagine que c'est pour que les sorties de disques coïncident avec des concerts, puisque visiblement... Enfin bon, je sais pas.
En tout cas, nous, on l'a sorti sans spécialement avoir de concert. En fait, on devait avoir un concert qui a été annulé. Voilà.
Ah oui, d'accord. Et je voulais savoir ce que vous pensiez par rapport à ça.
Nous, on est tout petits, on n'a pas de distributeur.
Ah voilà, ça.
On ne compte pas faire de l'argent avec, on n'est même pas sûr de rembourser le label. On ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir refaire des concerts. Sachant que l'écrasante majorité des disques qu'on vend dans notre milieu, à nous, c'est en tournée, quoi.
Ouais, bah c'est ça, ouais.
Et ça, de toute façon, c'est exclu ou pas. Hein. Enfin, c'est fortement réduit pour un petit moment.
Ouais. Enfin, ça va reprendre.
Voilà.
Ouais, ouais. Alors, sinon, quelle direction a pris votre trio depuis votre venue en 2017? Il était question de trame légère. Vous parlez de trame légère. Oui, oui, j'ai noté ce mot.
C'est Lucas qui a dû dire ça.
Non, c'est toi.
Ah.
Tu vois, t'as vu
trame légère. Fait, allez, Augustin.
C'est pas mal comme.
Mais ça a peut-être changé.
C'est le nom du bouquin d'Augustin qui vient de sortir.
Trame légère.
On va dire que ça a changé, puisque je sais pas trop ce que ça veut dire, trame légère.
Tu vois.
Non, mais je pense qu'il y a un fond qui reste pareil, forcément, puisqu'on a continué à faire la même chose. D'ailleurs, sur le premier morceau qu'on a écouté, je pense qu'on pourrait quand même rajouter que. Il y a. En définitive, pourquoi on a cette intention-là aussi, c'est pour atteindre un certain point d'intensité musicale, comme je disais, un certain niveau d'urgence, on va dire.
Mmh.
On trouve des techniques pour atteindre ça, et que, en fait, notamment la fatigue physique est une manière de limiter les possibilités, de limiter les choix.
Ouais,
comme oui. Si tout d'un coup on faisait en sorte dans une logique de réduction qu'il n'y ait plus qu'un seul choix possible,
ouais.
Et que du coup il y a ce choix là jusqu'à temps le moment, jusqu'au moment où on arrête. Enfin, moi je sais que par exemple j'ai pas mal lu Jean Dubuffet ces derniers temps sur l'art brut, et je pense qu'il y a vraiment des résonances. C'est à dire lui, pourquoi, quand il a inventé le terme d'art brut, c'était non pas pour faire la même chose que notamment les personnes internées dans les asiles qu'il est allé voir. C'est plutôt comment pour modifier sa pratique et s'imprégner de quelque chose de l'ordre de l'élan vital qu'il y avait dans les œuvres qu'il a collectionnées, les œuvres des fous, enfin des gens considérés comme fous par la société. Mais nous, n'étant pas fous, il faut trouver des techniques un peu artificielles pour recréer cette urgence et cet élan vital un peu.
Ouais.
Et quand je dis élan vital, de leur part, c'est vraiment des élans de survie. Quand on lit des textes, notamment écrits dans la clinique de Saint-Alban, il y a vraiment des témoignages de gens qui sont sur le fil. Hein.
Mmh.
Voilà, c'est ça, c'était un peu l'intention du deuxième disque. Après, ça. Donc, il y a toujours cette idée-là, je pense, qui parcourt. Enfin, qui est quand même là dans notre musique un peu.
Mais vous n'êtes pas des hommes du commun à l'ouvrage. Vous n'êtes. Tu vois ce que je veux dire, Tu as dit un mot, alors je ne me souviens plus, mais tu parlais d'un truc qui avait l'air un peu contradictoire sur l'improvisation, mais qui n'était pas vraiment... Comment dire, je ne sais plus comment tu as dit tout à l'heure. Mais, tu vois, vous n'êtes pas indemne de culture, vous avez une forte culture même musicale et jazz notamment.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Oui, parce que tu dis ça par rapport à l'art brut.
Oui, ouais, bien sûr.
Ouais. Tu veux, non, est-ce que je revendique le fait d'appartenir à rien? Non, pas du tout.
C'est
pas du tout ça. Ouais. Non, c'est plutôt de dire comment on fait pour produire autre chose qu'une espèce de culture normalisée telle qu'on nous l'apprend à l'école, et comment continuer à vivifier le matériau musical. Et ça, pour le coup, c'est ce que répète souvent aussi Derek Bailey, le guitariste qui est. Notamment utiliser le terme de musique non idiomatique, c'est que dans toutes les musiques où il y a de l'improvisation, donc pas seulement la musique dite non idiomatique, mais aussi, lui il parle de musique indienne, de flamenco, de musique pour orgue, etc. Dans toutes ces musiques-là, à chaque fois l'improvisation, et ça c'est les témoignages des gens qui la font, sert pour vivifier le matériau musical, pour éviter qu'il meure. Et voilà, enfin, l'école par exemple, c'est le meilleur moyen de faire mourir n'importe quelle œuvre. Il y a des œuvres qui ont pu vivre à un moment donné, puis qui sont désamorcées selon le contexte dans lequel elles sont représentées et produites.
Ouais,
et voilà.
Ouais. Alors on va écouter un morceau, mais j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, puisque c'est pas un extrait du disque. Et là on va, il y a une vidéo. On va entendre un extrait. Donc c'est une vidéo qu'on trouve sur internet. Ça s'intitule Nuovo Febbraio. Et je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que ces vidéos. Quelle est cette matière qui est distincte du disque? La matière musicale.
C'est les intacts. Tu m'en parles.
Oui. Si, bah, je pensais que t'allais lancer la musique.
Tu veux qu'on en parle après, peut-être?
Ah, vous préférez?
Bah, ouais, peut-être. Comme ça.
Ouais, d'accord. Ah oui. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Et alors, Augustin Bette, Basile Naudet, est-ce que vous pourriez nous parler de ce morceau qu'on vient d'écouter ?
Bah, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure là, sur le fait qu'on a réduit un peu le matériel. Là, vraiment, ça joue uniquement sur un principe, c'est le temps de réaction.
Ah oui, voilà.
Donc pareil, des règles assez, enfin des contraintes assez simples. Donc faut réagir, on se regarde pas, faut réagir le plus vite possible avec une seule note, et on doit pas faire plus de. Normalement, il faut pas trop dire ce genre de choses, mais le mode d'emploi. Mais il faut pas, et on n'est pas censé faire plus de deux notes à la suite. Donc,
ah oui.
Et voilà, à partir de ces règles vraiment un peu débiles, voilà, on a fait ça.
Et on a les yeux fermés.
Ah oui. Mais alors, pourquoi avoir fait. Enfin, qu'est-ce que. C'est un truc en plus, c'est un. Pourquoi avoir fait ces vidéos, tout simplement
c'est... Bah, on voulait. En fait, ça faisait. Le disque, ça faisait déjà 2 ans, on avait des idées de trucs à enregistrer, on était en répète, et du coup, on s'est dit, bah, ouais, on va les enregistrer, les filmer. Voilà.
Ah oui, d'accord. Donc, c'est le matériau d'un prochain disque, ou on sait pas, non?
Non, je pense pas. C'est juste comme ça.
Juste des vidéos. Alors, on va parler de. Enfin, si vous voulez nous évoquer ce dont vous voulez parler à propos de vos autres groupes, de vos autres formations, parce que j'imagine que vous devez jouer dans pas mal d'autres groupes.
Oui. En ce moment, c'est un peu. Pas vraiment, quoi. Il y a des. Moi, je suis beaucoup dans Surnatural Orchestra en ce moment.
Ah oui, c'est vrai.
Qui est une grosse machine. Qui demande beaucoup d'implication.
Ouais.
Pour tout dire, ce matin, j'étais dans un dossier de subvention de la mairie de Paris.
Oh bah ouais.
Voilà, c'est une grosse histoire. Ouais. La semaine dernière, on a fait du cirque. C'était super. On va créer un nouveau spectacle de cirque avec la compagnie In Extremis.
Ouais.
En janvier. Avec Surnat, on va aussi poser un chapiteau dans le parc des Guilans en octobre.
D'accord, c'est où ?
Le parc des Guilans, c'est entre Montreuil et Bagnolet.
Ah oui.
Dans lequel il y aura des concerts.
Ouais.
Voilà, après des groupes. Il y a l'orchestre 2035 qui est aussi. Oh non.
Ouais, on va en reparler après.
Ouais, ok. Ouais. Ouais, sinon c'est tout pour moi, je crois.
C'est tout pour toi, ouais. Augustin.
En ce moment, là, je sors un truc avec Luca Ventimiglia qui fait aussi partie du groupe. Lui, il est aux machines et moi, je suis à la batterie. Et donc ça, on est en train de le mixer.
Ouais.
Et je vais aussi sortir un truc avec Alexandre Duclosel.
Ah bah oui.
Au cadre de piano. Voilà.
Et bien sûr, Stree.
Ouais.
On a eu le plaisir de vous recevoir le. Enfin, je sais pas si c'était exactement la bonne configuration. Tu n'avais que des éléments de batterie le 1er janvier dernier.
Ouais. Exactement.
À l'invitation de Jean-Brice Godet. Et alors, parlons d'un petit peu de 2035. Avec Luca, vous êtes tous les trois des piliers du collectif 2035. Comment? Alors, je rappelle que dans l'émission d'il y a 3 ans et demi, vous nous parliez de la création du collectif en tant que structuration, je sais pas comment dire d'autre. Donc c'était quand on vous avait reçu la dernière fois, ça n'existait pas vraiment. C'était dans l'idée, bien sûr, mais ça n'avait pas d'existence réelle. Je veux savoir comment ça a évolué depuis.
Ça, on a pris notre temps. On a désormais une association.
Oui.
Donc on est désormais ce qu'on appelle structuré. On a un président, un trésorier.
Ouais, voilà.
Et le collectif existe autour de l'orchestre surtout.
Ah d'accord.
Moi j'aimerais beaucoup du label aussi. C'est
ouais.
un peu.
Ouais.
C'est un peu plus petit à ce niveau-là.
Ouais ouais. Et alors, est-ce qu'il y a des nouvelles, des nouveaux musiciens ou musiciennes et qui se sont agrégés depuis parce que je crois que le noyau de base, vous étiez 7, il me semble.
Ouais.
Ouais.
Là, l'orchestre, on est une quinzaine.
Ah oui. Ouais.
Donc oui, c'est un peu en train de c'est le oui le collectif c'est devenu il y a le label et effectivement on sort des trucs et après là le principal enfin l'énergie qu'on la chose qui nous demande le plus d'énergie, c'est l'orchestre, pour l'instant. On a commencé à répéter... En fait, on a fait au départ 2 concerts autour de la musique d'Ornette Coleman et de l'Art Ensemble of Chicago.
Ouais.
Surtout. Ça, c'était en début d'année, en septembre. Enfin, en... ouais, c'est ça. Enfin, d'abord en juin, puis en septembre, je crois. Et ensuite, on a commencé à plus répéter. On s'est dit qu'on voulait faire pas seulement des reprises. Donc là, on mélange des reprises et des compositions, mais on peut pas faire écouter grand-chose parce que pour l'instant, on est vraiment en train de chercher. C'est pas, on a, voilà. Mais ce qui s'est passé, par contre, à partir des occupations de théâtre, hein, c'est que du coup, on s'est mis un peu à jouer devant les théâtres occupés, au théâtre de l'Odéon.
Eh oui.
Et puis au théâtre devant le théâtre de Montreuil.
Ouais.
Du coup là, c'est vraiment d'autres enjeux, mais qui correspondent, enfin qui résonnent avec des questions qu'on se pose depuis longtemps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire dans l'espace public. Donc on dit le terme politique, mais en gros c'est ça, c'est quelle est l'interaction entre la musique et voilà, et de constater, enfin d'éprouver que dès qu'on change de contexte, la musique évidemment change aussi.
Ouais.
Voilà.
Oui, du coup il est un peu schizophrène l'orchestre, parce que Quand on répète ensemble, on travaille beaucoup de l'impro,
mais oui.
de la musique un peu froide, et dès qu'on va dehors, on est confronté au fait que on a envie de fédérer quelque chose.
Ouais, bien sûr.
Et du coup, je pense que l'avenir de ce groupe, c'est de plus être schizophrène,
bah oui.
Et de d'être très content de tout ce qui arrive dans la musique.
D'accord. Ça veut dire quoi concrètement? Vous allez continuer sur le répertoire ou sur l'impro? Non, le peuple, vous ne posez plus de questions. Quoi.
Les deux, je pense. Ah, je pense qu'il y aura du répertoire et il y aura de l'impro.
Ouais.
Ouais, je pense qu'on assume que faire des reprises aussi, c'est une manière de trouver le son qu'on cherche, quoi qu'il arrive, de toute façon.
Ouais.
Après, moi, il y a eu un petit... Parce que je suis allé à quelques réunions pour l'organisation de certains de ces événements. Et il y a parfois chez les militants une certaine idée de préconçue de ce qu'ils attendent en fait pour la musique. Donc en gros la musique c'est le en gros pour divertir les troupes après le combat quoi.
Ah oui, d'accord. Il
y a un peu quelque chose comme ça. Je dis pas tout le monde hein, mais c'est quand même ça qui est revenu.
Musique festive.
Donc on s'est retrouvé à devoir cacher ce qu'on faisait pour essayer de quand même jouer parce que c'est vrai que c'est une conception quand même assez condescendante de.
Ouais.
Puis en projetant ce qu'attendent les gens de la musique, alors je pense que bon. Donc là aussi, je pense qu'on est encore un peu schizophrène. Nous-mêmes, on est pris là-dedans. On essaye de correspondre à ce qu'on attend de nous quand on joue dans ce contexte-là. Mais je pense que voilà, on a vraiment un travail à faire. Un travail. De trouver aussi le son qu'on a envie de faire, dans, quel que soit le contexte, quoi. Ce serait ça le.
Ouais. Après, j'ai envie de dire que les reprises que vous faites ne sont pas forcément connues du grand public. Hein. Je crois que c'est. Justement, je vous ai vu à l'Odéon et je suis venu demander à Basile, mais c'était quoi? Parce que le pote avec qui j'étais avait reconnu des choses, mais on n'était pas sûr en même temps, tu vois, c'est pas des. Et le pote, il est bien pointu sur ces musiques-là, tu vois. Et voilà, il y a ça, puis il y a votre interprétation, elle n'est pas non plus. Il y a quand même des moments d'impro hein, plus ou moins libre, quand même. Hein.
Ah ouais. Mais il y a une grande tradition de réflexion autour des... dans le jazz, dans le free jazz, oui. Notamment autour des musiques de danse et des concepts qu'on développe dans la musique. C'est des trucs qui ont été beaucoup creusés par Art Ensemble notamment, par les musiciens de Saint-Louis beaucoup aussi, et par Ornette Coleman quand il a monté Prime Time, qu'il a monté pour deux raisons. C'était d'abord parce qu'il voulait faire de l'argent, parce que c'était une période un peu creuse. Et du coup, il a dit, vas-y, je vais monter un groupe de funk.
Ouais.
Et parce que c'était une musique, la funk, elle arrivait à la fin des années 60, début 70, elle a un peu retourné tous les musiciens afro-américains, quoi.
Mais oui.
Il faut quand même dire que ça n'a pas trop marché, je crois, faire de l'argent pour Ornette Coleman.
Non, Prime Time. J'en parle un peu autour de moi avec des musiciens plus âgés. Et pour les musiciens de, je sais pas, génération au-dessus de nous, Prime Time, c'est un peu une blague.
Oui.
C'est un peu des lignes de basse disco avec des caisses claires des années 80 et tout. Alors que c'est vraiment hyper intéressant comme musique.
Ouais. Après, moi, il y a l'exemple aussi dans les musiques politiques un peu similaires de Willem Rocker. Aux Pays-Bas, en fait, toutes ces bandes-là, l'ICP, et, comment s'appelle-t-il, notre ami Peter Brotsman, et tous ces gens-là qui ont inventé l'autoproduction, d'ailleurs, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ouais. Moi, j'ai un excellent bouquin dont je ne saurais pas dire les auteurs, C'est un couple sur Willembrocker, c'est assez passionnant en fait. L'idée de faire du théâtre en même temps, de vraiment s'adresser, d'aller dans les rues. Quoi. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a ce côté. Que pensez-vous du côté festif aussi ? Je dis ça parce que je suis influencé par l'excellente émission de notre camarade Laurent, que j'ai entendu lundi matin, dans l'émission Lundi Matin, qui interrogeait justement le. Eh ben, voilà, le fait qu'en manif, on n'a pas forcément envie d'être festif, tu vois, on a envie de lutter, on est assez énervé, quoi. Et il y aurait un peu cette injonction, ça rejoint un peu ce que tu disais, quoi, d'être rigolé, quoi, de faire la fête. Quoi.
Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a une désillusion des militants quant à la tête de nos manifestations aujourd'hui. Mais ce n'est pas que la fête, c'est les merguez de la CGT, c'est tout ça.
Bien sûr, les ballons.
Ouais, et je pense qu'il ne faut pas oublier que on a, notamment en France, on a une histoire de l'émeute festive qui est pas reléguée, quoi. Ouais, l'histoire des carnavals, l'histoire des émeutes carnavalesques, tout ça. Ouais. La musique, la danse, a toujours été une part très importante de la lutte.
Ouais, d'accord.
Après, je pense que moi aussi, j'en ai marre d'écouter le char de la CGT qui nous passe du grand corps malade ou
ouais, bien sûr
ouais. Ouais, puisqu'en en fait ça dépend, on dit musique, mais quand c'est des énormes sonos qui tabassent et qui empêchent les gens de parler, c'est pas la même chose qu'un concert avec des musiciens live. Enfin, il y a une fonction, enfin voilà,
je ouais, pense. Ouais. On reviendra là-dessus un petit peu. Là, je vous propose d'écouter Roscoe Mitchell. Alors Basile, je crois que c'est toi qui a proposé ça, je voudrais savoir pourquoi. Et aussi, tu nous avais déjà proposé Roscoe Mitchell il y a 3 ans et demi.
Oui, et je pense que c'est le même morceau.
Oui, il me semble. Ouais.
Mais en fait, c'est la même déclinaison de morceaux. C'est une pièce qui s'appelle Nona,
ouais.
qu'il a d'abord joué en solo. L'histoire, elle est rigolote parce que c'était un festival, c'était à Meurthe, je crois.
Ah oui.
Et c'était Anthony Braxton qui devait jouer en solo. Et Braxton a eu un empêchement, il n'est pas venu. Et il y avait l'Art Ensemble qui devait jouer le lendemain. Et du coup, le programmateur a demandé à Roscoe de jouer tout seul.
Ouais.
Et il s'est fait huer quand les gens ont appris que c'était pas Braxton qui allait jouer. Et du coup, je sais pas si c'était intentionnel ou pas, mais il a commencé en jouant une phrase en boucle. Et il répète la phrase en boucle pendant bien 8 minutes
c'est ça,
avant de développer.
Je sais pas si on va écouter 8 minutes. Non, ça va être.
Non, alors là, c'est la version d'un album de l'Art Ensemble Chicago qui s'appelle Fanfare for the Warriors.
Ah, très bien.
Qui est un super album, et du coup c'est une version c'est une déclinaison de ce thème, c'est une variation de ce thème, Nona, pour l'Art Ensemble de Chicago. Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au trio, j'allais dire duo, au trio Where is Mr. R. Alors, Basile, tu fais un peu chef d'orchestre dans ce Big Band. A-t-il un nom d'ailleurs, ce Big Band? Big Band 2035 ?
Orchestre 2035, il s'appelle.
Orchestre, il n'y a pas de Big Band du tout.
Alors, je fais chef d'orchestre de fait parce que j'ai eu de l'expérience un peu dans la direction,
ouais,
de par sur Nat, et que je me sens à l'aise dans le fait de faire des signes et de, ouais. Mais l'idée ce serait que je reste à ma place et que n'importe qui puisse venir diriger l'orchestre.
Ouais ah bah oui, oui. Et vous jouez sur partition? J'ai pas fait gaffe à ça.
Ça dépend qui.
Ah ouais, d'accord.
Y a les soufflants ont plus de notes que la section rythmique, donc ouais.
Donc je précise, je ne vous ai pas vu en concert, mais dans le cadre de manifestations revendicatives sur la voie publique devant le théâtre de l'Odéon. Et alors, justement, donc par rapport à ça, j'aimerais que vous nous parliez des, puisque vous soutenez ces initiatives, quelles revendications vous tiennent à cœur, vous ?
En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a... Parmi les intermittents, il y a plusieurs franges. Il y a ceux qui veulent défendre leur statut, c'est bien leur droit. Et puis il y a ceux qui cherchent, qui, en plus de vouloir défendre leur statut, cherchent aussi à l'étendre,
ouais,
et à considérer qu'en réalité, l'intermittence, c'est un rapport au travail qui pourrait être souhaitable. Plus qu'un statut, c'est un rapport au travail qui pourrait être généralisé à toute la société. C'est-à-dire, c'est... en gros, la perspective d'un travail libre, mmh, émancipé plus ou moins des... Après, le statut actuel de l'intermittence, il est encore entre les deux. Ça reste du salariat qui est conditionné par un certain nombre de cachets, etc. Là, en ce moment, il y a quand même tout un front de lutte qui se fédère autour de Bernard Friot, mmh, et du réseau Salariat,
ouais,
qui cherche à... Donc l'idée de Friot, la renomme garantie économique générale, mmh, c'est le salaire à vie de Friot, mais voilà. Donc je pense que l'intérêt pour avoir une chance d'être audible en dehors de notre milieu d'artiste, je pense que il faut mettre à ce niveau-là les revendications, c'est-à-dire demander non pas le salaire de base, qui est la version de droite qui est en train d'être... Ou l'extension du RSA pour les jeunes, qui est plus ou moins la réponse de Macron pour l'instant,
mmh,
qui sont des miettes, enfin qui sont en tout cas complètement inclus dans l'ordre néolibéral. Ouais. Ça ne le remet pas en question. Alors que la réponse de Friot, ce serait un rapport au travail vraiment différent.
Ouais.
Donc pour moi, c'est le principal. Enfin, c'est ce qui me. Enfin, c'est le. Comment dire. Principal motif de. Principal intérêt que je vois dans cette revendication en ce moment.
Ouais. Et toi, Basile ?
C'est le mouvement des occupations de théâtre qui a commencé il y a 2 mois. Il est extrêmement mal médiatisé,
mais oui,
enfin, à dessein, je pense. Hein, tout le monde pense que c'est des artistes et les techniciens qui luttent pour leur statut, mais les revendications qui sont unanimes dans tous les théâtres occupés, c'est le retrait immédiat de la réforme de l'assurance chômage,
ouais,
qui avait été retardée grâce aux grèves de décembre dernier, qui revient sur le tapis désormais, qui va être un cataclysme pour les chômeurs, pour les intermittents. Et c'est l'extension du statut d'intermittent du SPECLAC à tous les intermittents de l'emploi.
Oui.
Donc les intérimaires, etc. Ouais. Donc c'est pas des artistes qui veulent rouvrir leurs lieux pour continuer à faire de la culture dans leur coin. C'est beaucoup des précaires, ouais, qui luttent pour un autre rapport au travail, comme a dit Augustin.
Ouais. D'ailleurs, il y a pas mal de convergences, hein, ce qu'on peut suivre sur Internet, les AG, il y a des AG tous les jours à 14h, je crois.
Oui.
Ouais, donc ouais. On voit les différents intervenants qui sont assez variés, quoi.
Et ça a été une belle mise en lumière de tout ce qui traîne autour de la coordination intermittent précaire, qui est une vieille coordination de lutte pour un salaire à vie aussi.
Ouais. Et alors, je suis bien content que vous ne me parliez pas d'histoire de masque et tout ça, parce que bon, moi, personnellement, ça me fait pas vibrer. Ça va, je veux dire, c'est pas un combat contre les masques, je m'en fous, quoi. Mais par contre, est-ce que vous avez suivi certains débats qui ont eu lieu, je pense notamment dans le cadre de Son d'hiver, à cette table ronde avec Jean Rochard et Pierre Ten, non, vous avez...
Moi, je l'ai écouté, ouais.
Tu l'as écouté. Est-ce qu'il y a des thèmes qui ont retenu votre attention, sur lesquels vous souhaitez parler ?
Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est comme d'habitude quand on parle de musique libre, curieuse, etc. C'est le présupposé qu'elles sont émancipatrices.
Ah, oui.
Et donc, j'ai beaucoup aimé Jean Rochard à ce débat, parce qu'il n'a pas arrêté de marteler que ce sont les conditions de la musique qui sont politiques et c'est pas... pas la musique.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi, ça m'avait assez séduit ce qu'il racontait. Et on l'a invité dans l'émission peu de temps après. Oui. Alors, il y a aussi, moi, ce qui m'avait fait rire dans ce qu'il disait, c'est cette histoire de non-essentiel. On voyait sur Facebook des musiciens qui habillaient leur image sur Internet, je ne sais pas comment on dit ça, un logo, non, je ne sais pas, avec le truc non-essentiel. Mais lui disait, enfin, moi, je pense aussi, c'est quelque chose à revendiquer, là, le fait d'être non-essentiel, non ?
Oui, puis c'est un vocable du pouvoir aussi. Enfin, ouais. C'est pas nous qui avons décidé de se positionner sur le prisme essentiel ou non essentiel.
Oui, voilà. Moi,
je pense même que c'est un mot qu'il faudra abandonner.
Ouais.
Comme utile. C'est pas avec ces mots-là qu'on doit penser notre pratique.
Ah non.
Oui, après, il y en a qui ont fait des distinctions sémantiques entre nécessaire, pas nécessaire, mais essentiel, ou je sais pas quoi. Bon.
Ouais. Et alors sinon, il y a également, il mettait le... Ça rejoint un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. Il signalait quand même que les musiques qui faisaient chier le pouvoir, en fait, c'était ces chars techno là, qu'on avait effectivement dans les certaines manifs.
Ouais. Ah ouais. Oui, oui, puisqu'il y a eu... Et puis c'était juste après la grosse teuf de Loinon, je sais plus comment ça s'appelle, côté de Rennes, là.
Ah oui.
Qui a été très médiatisé.
Ouais, ouais.
Je pense que la musique techno avant le rap aujourd'hui, c'est la musique qui a été la plus subversive et la plus revendicative, et qui a en Angleterre dans les années 90, il y a eu un front commun de musiciens, de militants écologistes radicaux, d'anarchistes autour de la culture de la rave et de la free party.
Ah oui, okay.
Et je pense que c'est quelque chose qui est encore très très présent ici, quoi.
Oui, puis ça rejoint ce que tu disais, ils ont investi des nouveaux lieux pour le coup.
Ouais.
Que ce soit en dehors des villes, mais aussi là où est née la techno. Au départ, c'était dans des vieux hangars, la warehouse de je ne sais plus quelle ville. Voilà.
Alors, je ne sais pas si on va rester dans la techno avec Alvanotto et Ryoji Ikeda. Et vous préférez qu'on écoute et qu'on en parle après, c'est ça, si j'ai bien compris le procédé.
Comme tu préfères quoi ?
Eh ben, qu'on en parle avant, parce que c'est un peu surprenant quand même.
Ouais, il faut que je me souvienne. oui, là ça nous ramène encore au trio pour le coup. C'est-à-dire que eux, ils ont poussé l'entreprise de réduction à un point assez extrême, mais notamment aidés par les logiciels de génération d'ondes aussi. Où du coup, ils explorent des contrastes soit extrêmes en termes de grandeur, donc l'infrabasse, le suraigu, le fait de par exemple poser une fréquence unique. De l'extrême dans le rapide, bon voilà, mais aussi dans des contrastes minimaux avec des modifications de texture quasi imperceptibles. Et à titre personnel, moi j'ai beaucoup écouté cette musique là et c'est vrai que ça, dans ma pratique de l'improvisation à la batterie, ça m'a beaucoup inspiré, disons, pour ça m'a donné plein d'idées, quoi, de quoi travailler, de sur les résonances, sur enfin tout un tas de trucs à amener à un certain niveau de précision, voilà, l'improvisation.
Alvan Otto et Ryoji Ikeda dans Les Oreilles Libres sur Radio Libertaire. Et alors, on va parler de cet appel à contribution à l'occasion de la venue de Zapatistes en Europe. Alors, pouvez-vous nous parler de ce voyage? De quoi s'agit-il?
Ouais, alors, je vais peut-être laisser Basile parler de ça. Est-ce qu'il y a besoin peut-être de rappeler
peut-être,
quelques mots qui sont les Zapatistes? Bien parce sûr, que malheureusement, c'est à la fois sous-médiatisé et sous-connu en France.
Ouais, t'as raison.
Donc c'est un mouvement de lutte armée qui a commencé dans les années qui a commencé dans les années...
1er janvier 94.
Ouais.
Ouais, mais ça a commencé une vingtaine d'années avant,
mais oui.
Autour des paysans indiens du Chiapas au Mexique. Donc ouais. Le Chiapas, c'est une des régions les plus pauvres du Mexique. Ouais. Ça s'est fédéré autour de, d'abord, l'église, en fait, l'évêché de San Cristobal de Las Casas, notamment l'évêque, qui a commencé à faire des sermons pour les... En enjoignant les paysans à s'auto-organiser. Ouais. Il y a eu les maoïstes, les trotskistes guevaristes qui sont mexicains, qui sont arrivés. Puis, et aussi des mouvements vraiment paysans. Ouais. Donc tout ça, ça a fait un climat de lutte qui a donné lieu, en gros, à la création... Enfin, je passe les détails, mais... Et puis moi-même, je ne les connais pas forcément sur le bout des doigts, mais à l'EZLN en 1983, quelque chose comme ça. Ouais. Au début, ils étaient une poignée issue du Front de Libération Nationale. Mmh. Et ils ont vécu dans les montagnes. Et les Indiens qui vivaient dans cette région de la Selva ont commencé à les rejoindre. Ils ont grossi très rapidement, jusqu'à 1500-2000 à la fin des années 80. Il y a eu une énième réforme anti-indien par le gouvernement mexicain en 92. Et c'est suite à cette réforme-là qui commençait à vouloir vendre les terres communales du Mexique, donc à les vendre à des propriétaires terriens, à des capitalistes. Donc contre cette réforme-là, ça a accéléré l'auto-organisation. Il y a eu une décision qui a été prise de prendre les armes. Je dis tout ça parce que c'est important de dire que les armes ont été prises en réaction. Ouais. Et devant l'inefficacité des stratégies pacifiques. Et le 1er janvier 1994, il y a eu 7 villes qui ont été occupées par l'armée zapatiste, qui sont partis, mais ils ont gardé... après, bon, ça c'est l'histoire d'avant. Et toutes les années qui ont suivi, il y a eu une tentative de contre-insurrection de l'État mexicain. Ouais. Des luttes donc avec toutes les stratégies possibles imaginables pour abattre le truc, donc voilà, mais en gros ça a donné lieu une dizaine d'années plus tard à ce qui est peut-être le plus intéressant dans ce moment, c'est-à-dire la construction de l'autonomie, ouais. Et de la construction d'une forme de vie qui soit le plus émancipé possible du mode de vie néolibéral, on va dire.
Voilà. Bah oui. Ouais. Ouais. Et alors ça, tu nous rappelles le contexte historique et tu nous rappelles ce que sont les zapatistes du Chiapas. Et alors qu'est-ce qui se passe actuellement ? Qu'est-ce qui... On en parle.
Alors en octobre dernier, le ZLN, du coup l'armée zapatiste de libération nationale, a annoncé qu'ils allaient entreprendre ce qu'ils appellent le voyage pour la vie. Mmh. Qui est assez cocassement la monnaie de la pièce de Christophe Colomb. Et donc oui. Les zapatistes viennent envahir le monde, ouais. Voilà. Ils viennent découvrir l'ancien monde.
Ouais.
Ce voyage pour la vie qui va faire venir du coup sur les 5 continents une délégation de 160 zapatistes, 120 femmes, 40 hommes, pas mal d'enfants,
ouais.
Vont faire le tour du monde pour rencontrer des militants, rencontrer des lieux de lutte, rencontrer des gens sur la planète qui se reconnaissent dans les modes et les processus d'auto-organisation zapatiste.
Mmh.
Ce voyage, c'est aussi un peu un prétexte pour les gens sur place de se rencontrer et de commencer à faire des choses ensemble.
Ah oui.
Voilà,
ouais.
C'est un point très fort de la déclaration pour la vie.
Ouais. Alors, tu l'as dit, il y a des actions un peu symboliques. Alors, je crois, j'en ai noté deux, moi, qui m'ont fait rire. Ouais, ils vont se rendre le 13 août 2021 à Madrid pour les 500 ans de la conquête de Mexico par Cortés. Et je crois qu'ils ont l'intention, en arrivant aussi sur le continent européen, de rebaptiser l'Europe.
Oui. Oui.
Avec un nom impossible en plus.
Mais... D'un nom indien, ouais, que je ne saurais pas prononcer ici.
Donc voilà, mais c'est pas les...
Oui, ils sont toujours très attachés aux symboles historiques,
oui.
Même au rapport au passé, comment articuler les luttes passées,
ouais.
Le présent et voilà,
ouais.
Construire l'avenir.
Ouais. Mais donc disons que les choses un peu symboliques, mais il y a aussi, je crois, leur but c'est quand même de rencontrer, d'échanger les pratiques et tout ça. Ils sont très demandeurs aussi de savoir ce qui se passe ici. Quoi,
oui. Oui, oui, carrément, surtout que le combat Zabati ces dernières années, il s'est beaucoup orienté autour de la lutte contre les méga-projets
ouais.
Au Mexique, qui est quelque chose qu'on connaît très bien en, fait, en Europe aussi, avec les ZAD.
Ouais, oui.
Du coup, enfin, moi, personnellement, je pense que c'est un bon axe.
Ouais.
Parce que les abattistes luttent contre des aéroports,
ouais.
des viaducs, ce ouais. genre de choses qu'on connaît aussi ici.
Ouais, oui.
Oui, c'est vraiment un tour du monde de tous les endroits où il y a des gens qui luttent contre l'ordre capitaliste.
Ouais.
Donc c'est, je pense que c'est assez inédit, comme, ah oui, en tout cas, bon, on sait ouais. rien, mais
oui, alors,
dans cette forme-là en tout cas.
J'ai vu...
Et du coup, juste pour répondre là-dessus, il y a aussi, quand tu disais qu'ils allaient voir les... aussi les gens qui s'organisaient, c'est aussi une manière de nous faire faire des choses qu'on n'aurait pas faites. Et,
ouais.
et clairement, bah, cette compilation, c'est pour concrètement leur payer une partie du voyage, parce qu'eux ont très peu d'argent, ils fonctionnent majoritairement sans argent. Mais c'est, du coup, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait s'ils n'étaient pas venus.
Oui, bien sûr.
Et c'est aussi une manière, entre nous, de se lier entre des musiciens... pareil, qu'on n'aurait sans doute pas rencontré, qui ont des pratiques finalement similaires aux nôtres.
Mais oui. Alors, est-ce qu'il y a un agenda ? Alors, parce que bon, j'ai vu un article en fait où j'ai vu qu'ils étaient sollicités dans énormément de pays par énormément d'organisations. Et est-ce que pour la France ou pour la région parisienne, je ne sais pas, il y a un agenda où on est au courant de...
Oui, carrément. Pour l'instant, rien n'est encore gravé dans la roche, parce que pour l'instant on mise sur le fait qu'ils vont arriver à Paris fin juin, début juillet,
ouais.
sachant qu'il y a déjà 6 personnes qui sont parties
ouais, ouais.
En bateau, dans un bateau dans lequel ils vont pouvoir faire une quarantaine en arrivant, car ils ne veulent amener que le virus de la révolution.
Oh, très bien.
Dixit la délégation.
Ouais.
Et moi je sais qu'avec Surnat on va jouer au mur à pêche le week-end du 4, 5, 6 juin. Un événement qui est organisé par la coordination Montreuil-Bagnolet. Et a priori, ce petit bout de délégation sera là, c'est 6 personnes.
Ah, super.
3 femmes, 2 hommes et une Nuevo Altro, je ne sais plus comment ça se prononce.
Nuevo Altro, je vais.
Voilà.
Uno, Altro, Altra.
Ouais, je ne sais plus.
Je ne sais pas.
Et je trouve qu'ils ont beaucoup communiqué là-dessus. Je trouve que c'était très beau parce que ça faisait ressortir le fait que la non-binarité, ce n'est pas une invention de l'Occident de la fin du XXe siècle. Quoi.
Je crois que les 421, ils appellent ça le groupe 421.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
L'escadron 421.
Escadron 421, ouais. 4 femmes, 2 hommes et Una, Uno, Altra, Altra.
Et elles ne devraient pas tarder à arriver dans nos contrées. Du coup, il y a un événement au mur à pêche. Mais pour l'instant, on s'organise sur fin juin, début juillet. Il va y avoir beaucoup de choses. En tout cas, à Montreuil-Bagnolet, il y a... Il y a ce qu'on appelle l'Interlieu de Montreuil, qui est un collectif qui regroupe beaucoup de lieux de militants de Montreuil, La Parole Errante, Aéri, La Maison Ouverte, La Conquête du Pain,
ouais.
qui sont un peu au taquet là-dessus. Mais l'agenda bouge beaucoup. Donc il va y avoir des trucs fin juin, début juillet, mais il va y avoir aussi beaucoup de choses en octobre.
Ouais. Ah bah oui, de toute façon, ouais. Mais je pense que, j'espère qu'il y aura beaucoup de choses à annoncer. On relaiera ici toutes ces initiatives, qu'elles soient musicales ou pas d'ailleurs. Alors, tu parlais, Augustin, un petit peu de cette compilation. En quoi le collectif 2035 est impliqué dans ce projet ?
Oui, alors c'est ce que disait Basile au départ, c'est juste le collectif 2035, parce que je me suis retrouvé à une réunion organisation zapatiste, il y avait quelqu'un qui proposait l'idée de compile, qui proposait que les musiciens fassent quelque chose. Donc je suis allé le voir pour cette idée de compilation. Donc on a commencé à rédiger un appel aux artistes. Puis on a eu de plus en plus d'idées. On a demandé à des contacts à pas mal de gens qu'on connaît pour élargir le cercle. Ça a commencé le cercle proche. Et puis on a essayé de se renseigner sur... des listes de musiciens aux États-Unis, mais aussi en Afrique. Petit à petit, ça va arriver aussi en Asie, etc. Et puis, d'autres collectifs ont eu la même idée. Donc là, on est en train de se... On fait des réunions entre plusieurs organisations pour faire une compilation commune.
Ah oui, d'accord.
Là, pour l'instant, moi, on a une quarantaine de morceaux.
Ah oui, quand même.
Les autres, je sais pas. Parce que moi, j'étais pas à la dernière réunion.
L'appel a pas encore été lancé, en fait. Il y a un collectif qui s'est monté pour faire une grosse mixtape et qui regroupe notamment la Flèche d'Or à Paris.
Oui.
Un collectif suisse, le collectif Paris Ayotzinapa, qui est un collectif de Mexicains vivant à Paris.
Ouais.
Et voilà, dans l'idée de faire quelque chose de plus grand, quoi.
Ouais, ouais.
Et de se rencontrer.
Profitons, lançons l'appel. Alors, moi, je vais faire une chanson. Donc, je vous l'envoie à quelle adresse ?
Alors, nous, c'est un peu tricky. Alors, je mets carte sur table parce que du coup, ce collectif s'est monté, mais l'appel n'a pas été lancé officiellement. Donc, ouais. Je pense que les morceaux, pour l'instant, on peut les envoyer à 2035mixtapeforchiapas@riseup.net.
Répète un peu.
2035mixtapeforchiapas@riseup.net.
Merci. Et alors, concrètement, c'est-à-dire tous ces morceaux, comment ça va aider financièrement les apatistes? On achète les trucs sur Internet? Comment ça se passe?
Alors, en fait, les apatistes ont refusé qu'on leur paye le voyage aller.
Oui.
On va leur payer le voyage retour. Il y a plein d'autres frais. Il y a des frais de douane, il y a des frais de visa, il y a des frais d'hébergement, de nourriture, etc. Il y a une cagnotte qui a été montée à l'échelle francophone ou européenne, je ne sais plus.
Ouais.
Qui est une cagnotte centralisatrice. Nous, on va générer des fonds qu'on va mettre dans cette cagnotte.
D'accord.
Qui va permettre de...
Ouais. Oui.
Alors... Les compiles seront sur Internet, sur Bandcamp.
Ouais.
On va faire plusieurs... L'idée serait de faire plusieurs volumes. Parce que comme leur voyage va durer... au moins un an, enfin,
ah
je
oui.
crois,
oui, oui.
voire plus,
voire carrément plus,
voire deux ans, voire en fait, ils savent pas eux-mêmes. L'idée ce serait de produire suffisamment de compilations, enfin, régulièrement de sortir des compilations, à pas trop cher. Je sais pas à quelle périodicité, peut-être tous les mois, peut-être même vu le nombre de morceaux, ça pourrait être plus, et qu'on puisse les acheter sur Bandcamp. S'il y en a. On pourrait aussi faire des compilations thématiques. Si par exemple, je sais pas, il y a la scène de telle ville ou de tel pays, on a envie de faire une compilation à thème, on pourrait aussi faire. Moi, à titre personnel, j'aimerais bien en sortir, si, par exemple, une compilation thématique comme ça, la sortir en physique aussi.
Ah oui.
Donc, enfin, il y a plein de choses à imaginer, mais voilà.
Ah bah super.
Et si on transpose un peu le message apatiste qu'ils ont adressé à la planète, c'est aussi pour nous. Musiciennes, musiciens du monde de se rencontrer. Et on essaye, mais c'est pas facile de trouver des musiciens ailleurs qu'en Occident.
Eh ouais,
on en monde majoritaire.
Ouais.
On a trouvé du hardcore de Bangkok, indonésien.
Mais oui, bah oui.
C'est super.
D'ailleurs, on aurait pu écouter ce morceau d'ailleurs.
Ah bah oui. Ouais.
Voilà. Bon, on cherche de la musique de partout dans le monde.
Voilà, donc est-ce qu'on peut appeler quand même les musiciens qui nous écoutent à vous rejoindre, à participer? Vous n'êtes pas saturé non plus?
Non.
Tout le monde peut participer.
Il y a une limite de 15 minutes.
Ah oui, c'est ça.
Par morceau.
Ouais.
Et pour nous éviter les saturations et les bordels logistiques, c'est cool de préciser dans le corps du mail les crédits, donc les musiciens, est-ce que ça a été enregistré, etc. etc.
Bon, et le format, c'est un format lossless, donc FLAC. Wave ou AIF,
et voilà.
Pour les précisions techniques.
Pas de MP3.
Pas de MP3.
Comme à la radio.
Exactement.
Très bien. Eh bien, on va écouter pas du tout un MP3, mais j'aimerais bien que vous présentiez ce qu'on va écouter, qui est un morceau qui s'appelle toujours Nuevo Febrayo.
Ouais.
Uno. C'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'était le doué.
Alors, on voulait mettre ce morceau en dernier, parce que c'est ce qu'on a fait déjà de plus récent, que ça prend peut-être une direction un peu différente, ou peut-être qu'on va creuser pour la suite. Là, pour le coup, c'est assez écrit, en fait. Et là, ce qui est en jeu dans ce morceau, je dirais que c'est comment dire. En gros, il y a trois parties. Il y a une première partie où on joue une texture difficile à tenir, mais chacun dans son coin. Enfin,
ouais.
Il y a peu ou pas d'interaction entre nous. Au moment où on ne peut plus la tenir, on s'arrête, on passe à une deuxième partie. Où là c'est l'inverse, on joue le plus possible ensemble.
Oui.
On joue dans la résonance de l'autre. Donc le vibraphone fait un accord et vas-y, je joue la résonance du vibraphone. Et après moi je rentre et je joue les résonances dans des impacts en homorythmie. Et la troisième partie, on revient à un mode de jeu le plus autonome possible où on a chacun un tempo différent en tête. On a des décomptes différents. Dans nos têtes, dans chacun dans nos têtes qu'on se dit pas,
ouais.
Et ce qui fait des impacts comme ça qui ont l'air aléatoires, en tout cas sans lien entre eux.
Ouais.
Et on le joue jusqu'à ce qu'on tombe ensemble, sachant qu'on ne sait pas à l'avance quand. Et ça aurait pu durer un quart d'heure. Et c'est la fin du morceau à ce moment-là. Voilà.
Super.
Ouais, mais j'y pensais juste maintenant. Je trouve qu'il y a un autre parallèle entre Where is Mr. Air et le Sabar.
Oui.
C'est que moi, on m'a déjà fait remarquer qu'avec Where is Mr. Air, quand on parle de notre musique et tout, on utilise des mots qui ne revêtent pas forcément le même sens quand on parle de musique plus idiomatique, entre guillemets. Donc quand on parle de jouer ensemble, de jouer pas ensemble, de jouer en rythme, de jouer des impacts et tout. Et ça me fait penser au Sabar, parce que le Sabar, c'est une musique où notre taxonomie occidentale, en fait, elle rime à rien là-bas, quoi. Parler de pulsation, parler de time, parler de même de riff.
Oui.
Et je trouve que c'est intéressant, parce que c'est vraiment d'autres mots pour la musique.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. L'émission Les Oreilles Libres va se terminer. Mais peut-être j'ai une question concernant vos activités à venir. Avez-vous des nouvelles idées de création musicale?
Alors moi, tout à l'heure, j'ai déjà répondu, je crois.
Ah oui.
Je parlais du duo oui. Machine Batterie avec Luca Ventimiglia. Et du duo batterie et cadre de piano aussi avec Alexandre Duclosel.
Mais c'est pas nouveau ça, ouais.
Ah, tu veux dire des groupes.
Je vais pas dire projet parce que je vais me faire.
Des groupes nouveaux. Bah, c'est le premier truc qu'on sort avec, ouais. Avec ces deux groupes-là. Voilà.
Ah ouais. Ou d'autres idées de, je sais pas quoi, de trucs étonnants, Basile.
Le truc étonnant, Basile. alors, moi, je suis en train de monter un groupe avec Maxime Petit. Ouais. Un groupe de punk dans lequel je vais jouer du tuba surtout.
Ah oui.
Voilà.
Du tuba.
Ouais, on cherche un batteur. Du tuba, ouais.
Ah super.
Ouais, j'aime bien le tuba.
Ah oui, Maxime, ah oui, bien ça bien. Ouais, ouais. Donc basse, tuba, batterie.
Ouais, je pense qu'on va jouer tous les deux de la guitare aussi un peu avec Maxime.
Ah bah oui, il faut. Ouais.
Voilà.
Ouais, ouais, très
bien. Sinon, qu'est-ce qui se passe
Des concerts par exemple, vous n'êtes pas programmé dans les festivals
Non. Il y a des programmateurs qui écoutent l'émission ?
Oui, bien sûr.
Et bah, je vous invite à acheter notre disque et à nous programmer, s'il vous plaît.
Très bien. Alors, on va terminer par un morceau qui s'appelle « Pour un roi pacifique », c'est ça ?
C'est ça.
C'est ça. Donc, c'est un extrait de la future compilation de...
Voilà, c'est un groupe qui s'appelle « La soustraction des fleurs »,
ouais.
Qui est un trio qui reprend... Alors là, c'est une composition, mais qui reprend des airs souvent du terroir français. Bon, c'est ce qui, je pense, j'espère ne pas trahir leur mot en disant ça.
Oui.
Du domaine français. Et là, c'est une composition de Frédéric Aurier.
Aurier, ouais.
J'espère aussi que je.
C'est ça, oui.
Et il y a Sylvain Lemaître aux percussions et Jean-François
Vraux
au violon. Et tout le monde chante. Voilà. Enfin, pas dans ce morceau, mais dans l'absolu.
Et donc, vous n'étiez pas du tout.
Tout le monde chante.
Vous n'étiez pas du tout au courant que Jean-François Vraux est notre invité de la semaine prochaine.
Non.
Oh, mais... Ça, c'est formidable. Ouais, on est. Alors, c'est peut-être un peu ce dont tu parlais tout à l'heure, les trucs les... intuitifs, je ne sais pas. C'est...
Ah, j'ai parlé de ça, moi.
Je me souviens déjà plus. Je sais pas. Eh ben merci à vous deux.
Ben merci à toi.
Merci Christophe.
Merci à vous deux. Allez voir tous les renseignements sur les apatistes. Le disque de... vous avez un Bandcamp, je crois, aussi.
Oui.
Et on peut le trouver. Alors, est-ce qu'il est sorti en CD? Je ne crois pas.
Oui, si.
Si, parce
le, disque, le disque, il est en CD.
Il est en CD.
Il est que en CD, d'ailleurs.
Ah, d'accord.
Il est au souffle continu à côté, là. Il y en a au souffle continu, quelques-uns.
Oui. Ouais.
Enfin, à côté, pour ceux qui... Voilà.
Et vous pouvez le commander via Bandcamp, c'est même plus simple. Et c'est moi qui fais les petits paquets, où j'écris votre petite adresse et tout.
D'accord.
Voilà.
Bon bah super, merci, merci à vous deux. Donc la semaine prochaine, Jean-François Vrault, qu'on va écouter là dans, dans 2-3 secondes. Vous serez demain au 1er mai
Non. Ouais.
Mais si.
Pas sûr.
Ouais. On verra ça. Bon, bah, je vous dis à demain. Nous, on y sera en tous les cas. Et puis, on se quitte avec la soustraction des fleurs. À bientôt. Allez, salut à 17h30, Radio Espéranto avec Guy et Hubert. Salut, à la semaine prochaine.